bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale avec Elia Kadobudadi, Marina Rollman, Daniel Morin.
Bonjour Marina.
Tom Villa.
Bonjour.
Tom Guipassureau sera là tout à l'heure. Et notre invité, Sylvain Tesson.
Bravo.
Bonjour Sylvain, merci de venir à ce micro.
Bonjour.
À nouveau, vous êtes un fidèle de l'émission et on vous en est reconnaissant. La Panthère des Neiges, vous venez de publier ce roman il y a à peine 2-3 semaines, à peine. La rentrée littéraire est généralement fin août, début septembre. Vous avez évité cet embouteillage pour vous glisser brillamment avec ce prix Renaudot qui a été obtenu, m'a-t-on expliqué, par surprise, parce qu'il y a une liste de finalistes. Vous n'étiez pas dans la liste des finalistes et vous avez quand même eu le prix hier soir. Donc en plus,
vous les avez bien eus. Hein. Bravo. Bravo, hein. Coiffe au poteau.
Félicitations.
Moi, je n'y suis pour rien. Enfin, si, j'ai un petit peu quand même. J'ai fini.
Vous avez envoyé un chèque à chacun des membres du jury, quand
même. Oui, bien sûr. Un manteau de fourrure.
Comment, Panthère.
Ça marche toujours, la fourrure.
Comment avoir un prix sans être dans les finalistes? Ça, je n'arrive pas à comprendre le mécanisme.
Ah, mais écoutez, ça, je ne sais pas. Les mécaniques des prix, y en a-t-il d'ailleurs? Je crois qu'ils ont prouvé par là qu'ils s'intéressent à ce qui est dans les livres. Enfin, j'en sais rien. Je ne peux pas véritablement vous répondre. Moi, je suis un lapin qu'on a sorti du chapeau.
Un chapin.
Non,
mais éventuellement, la sortie plus tardive de votre ouvrage explique que vous n'étiez pas dans la liste des finalistes et qu'ensuite, le jury s'est décidé en votre faveur.
Moi, je n'avais pas véritablement voulu concourir. Alors, je ne sais pas, ça s'appelle... Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très animal. L'animal est là où on ne l'attend pas.
Un tapis dans l'ombre et hop, il surgit.
C'est ça.
Toujours est-il en tout cas que vous avez...
La Panthère de Gallimard.
Vous avez signé la Panthère des Neiges, donc, chez Gallimard, issue d'une rencontre avec Vincent Munier. Vous aviez d'abord écrit des textes pour accompagner... Ouais. Tu dis que les textes illustrent les photos. Ouais, c'est une belle formule. Accompagner en tout cas ces photos, c'était il y a quelques années. Vous êtes rencontrés il y a une dizaine d'années, un peu moins.
On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, mais il m'a emmené au Tibet pour la première fois l'année dernière.
Voilà, mais non, je parlais de la première rencontre. Voilà, c'est passé donc il y a une dizaine d'années. Ensuite, vous avez publié différents ouvrages. Vous avez écrit les textes du livre de photos de Vincent Munier qui s'appelle Tibet minéral animal. Ça, c'était l'année dernière, donc. Et arrive cette Panthère des Neiges. Qui est un... Allez, c'est un livre d'amour, c'est un livre sur la patience, c'est un livre de philosophie de la vie. Comment vous le qualifieriez vous-même?
Oui, enfin, je pensais écrire un livre sur la rencontre avec la Panthère des Neiges, avec un animal. Et puis je me suis aperçu que ce qui avait le plus compté, c'est ce que m'avait indiqué Vincent Munier, c'est-à-dire l'idée que on peut se cacher, ouvrir l'œil,
être à l'affût,
ou ce qu'il en reste, être à l'affût, se mettre aux aguets, et tout à coup le monde vous livre davantage de secrets que vous ne l'attendiez. C'est-à-dire qu'il y a un
vous
roman
qui détestez...
insoupçonné dans le monde.
Oui, vous qui détestez l'immobilité.
Oui, c'est-à-dire que j'ai une espèce d'agitation de poil à gratter intérieur qui m'a plutôt emporté au cours de ces dernières années à voyager, un peu fébrilement parfois. Et là, ce qui était merveilleux chez Munier, c'est que à un âge assez avancé, déjà, il m'a rééduqué, quoi. Il m'a enseigné quelque chose que j'aurais pu apprendre beaucoup plus tôt. Et il m'a appris à me tenir en haleine, à regarder et à attendre.
Et à se cacher aussi.
Et à se taire.
Ça va complètement en opposition avec notre monde contemporain où on cherche à s'exposer, à se montrer au regard de l'autre. Là, tout d'un coup, l'amour passe par la capacité à être attentif et à poser son regard sur quelque chose qui vous regarde aussi souvent sans que vous le sachiez.
Mais c'est ça, moi j'aime bien les expériences... que j'aime croire anti-moderne, c'est-à-dire des retrouvailles avec une qualité du silence, de la conversation, d'une vérité très simple et très sobre des choses, c'est-à-dire un peu ce qui va à rebours de la frénésie et de l'épilepsie que nous propose la grande machinerie digitale moderne. Enfin, je vais pas recommencer ce discours du vieux con précoce. Mais quand j'étais jeune, j'étais con et je suis resté très jeune.
On va continuer de parler de ce très bel ouvrage, La Panthère des Neiges.
Qui est drôle aussi, parce que là on voit cette saillie de Sylvain Tesson, et c'est vrai qu'on rit aussi dans ce livre, dans La Panthère des Neiges.
Il y a quelques pensées aussi, vous essayez même de les faire rire, les trois autres, on va parler de...
Ça marche pas des masses, mais vous essayez.
Ça marche jamais, non.
Mais d'abord,
c'est à cause de moi.
Des questions concernant Sylvain Tesson, que voudrait-il supprimer dans les chambres d'hôpitaux?
Les lits.
La télé,
exactement. Cet homme, le premier. Non, c'est Tom.
C'est Marina, je pense.
Non, pas du tout.
Mais Marina, elle n'est pas en état.
On va demander à la VAR. Qu'est-ce que vous avez contre la télévision? Ça, je veux bien comprendre, mais pourquoi pas dans les hôpitaux, alors que c'est un accompagnement par moment important pour des personnes seules aussi?
On voit toujours les mêmes mecs. À midi, à 19h, c'est toujours les mêmes gars. C'est important.
Mais moi, je reçois quelques lettres de personnes à l'hôpital.
Et si tu as une insomnie le samedi, qui te retrouve le soir, bim.
Je reçois des courriers extrêmement émouvants, extrêmement touchants, en me disant, des phrases très gentilles.
Faites partie de ma famille,
quoi. Oui, vous étiez mon rayon de soleil quand j'étais à l'hôpital. Ouais. Merci d'avoir fait telle et telle émission.
C'est moi qui ai écrit celle-là.
C'est toi? Ah, d'accord.
Non, mais j'ai rien contre vous, si vous voulez. J'aurais pu dire, en fait, qu'il faut tout supprimer, sauf vos apparitions.
Non.
Mais c'est pas ça que j'ai dit.
C'est pour redonner de l'importance au livre.
Non, mais c'est simplement... Non, je prêche pas uniquement pour ma paroisse, mais c'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'avoir une expérience de longs séjours, de séjours prolongés à l'hôpital, et j'avais l'impression que le permanent brouhaha et la permanente... imposition de la télévision dans des chambres collectives avait un effet contre-productif. C'est-à-dire qu'on passait son temps à essayer de se reconstituer moralement, intérieurement, spirituellement, psychologiquement, mentalement, voire un peu intellectuellement pour ce qui restait des dispositions cérébrales. Et voilà que tout à coup, on revenait dans la chambre après ces longs séjours de rééducation chez les kinésithérapeutes et chez les psychologues, et on était enseveli par le malheur du monde. Il y avait donc quelque chose de profondément contre-effectif, qui venait balayer tout le bénéfice de ce que vous aviez réussi à reconstituer par l'imposition de l'effroi permanent.
La télévision là,
je me contentais de dire.
J'entends. La télévision là sert de nounou ou de garde malade à l'hôpital, comme des parents se servent maintenant des téléphones portables ou des tablettes à table pour les donner aux enfants pour qu'ils restent calmes à table. Comme ça, ils peuvent avoir leur vie d'adulte et les enfants sont tétanisés par les écrans qu'ils ont en silence. C'est des scènes qui me rendent dingue aussi de voir qu'il n'y a plus de discussion de famille parce que les enfants ont leur portable et regardent une série ou un dessin animé.
Mais je sais bien qu'il y a une valeur consolatrice de celle de la présence de la télévision. Je n'ai pas le cœur dur, je ne suis pas fou, je ne suis pas incapable de compassion. Je constatais simplement cet effet terrible de l'hypnotisation comme le python de la jungle qui vous hypnotise et qui empêchait toute conversation entre les malades. C'est pas de l'élitisme.
Ça revient à ce que c'est exactement ce que je dis à propos d'une réunion de famille avec des enfants qui regardent leur écran.
C'est ça. Et moi je me suis...
Donc en fait, c'est contre les écrans, qu'ils soient télé ou téléphone.
C'est-à-dire
ou tablette.
Moi, j'ai proposé un service de rééducation de l'hôpital dans lequel j'ai été fantastiquement reçu et magnifiquement sauvé par le système français, qui est extraordinaire. Car quand tombez dans la rue, on vous ramasse et puis on vous répare. Il faut quand même à un moment, avant de tout casser.
Quel que soit votre budget personnel, contrairement aux États-Unis, absolument.
Et quelles que soient vos fautes, et quelle que soit la responsabilité que vous avez dans votre propre fracas. Moi, je ne méritais pas d'avoir été sauvé, parce que moi, je suis tombé par mon entière faute.
Et si nous étions... On rappelle que vous avez eu, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents de Sylvain Tesson dans cette émission, que vous avez...
2014
je suis tombé parce que j'étais emboissonné sur une gouttière et puis voilà, c'était les...
Emboissonné sur une gouttière.
Oui, enfin, pour
pas dire bourré sur un toit.
J'étais complètement pochetronné dans les cheminées, quoi. Alors je suis tombé. Oui, alors j'ai tombé et dans une société qui vous jugerait selon votre vertu, on n'aurait pas dû me soigner, mais me jeter dans la fosse à Purin. Eh bien, j'ai été soigné, c'est fantastique. Et simplement, je me suis permis de dire à la direction du service de rééducation et de réadaptation que ça serait merveilleux si on se parlait entre voisins de chambrée, si on lisait par exemple des romans, des livres, de la poésie. Et c'est tout. Moi, je n'ai rien contre les écrans. Je trouve ça formidable de regarder les malheurs du monde 24 heures sur 24 par les chaînes d'information continue. Je me permets simplement de dire que c'est pire que le napalm dans le paysage cérébral. C'est tout. Mais c'est très nuancé.
C'est très très nuancé. C'est important, la nuance.
Mais votre papa fait de la télé?
Je crois, oui. Je vois de temps en temps, mais je. Oui, mais
c'est
en fait.
C'est pour ça que vous voulez qu'on la coupe.
Non, mais c'est vrai que la vie de ma famille est une chaîne d'information continue.
Sylvain Tesson ne se souvient pas forcément de toutes ses conquêtes féminines. En revanche, il se souvient de toutes ses. Quoi ?
Conquêtes masculines. Ces mots d'amour.
Les sommets gravis, les.
Ah, ça n'a rien à voir avec l'amour.
Les routes,
de celle avec qui il a vécu dans les bois.
Les pensions alimentaires.
Tous ces livres, les animaux, tous ces carnets, tous
les livres,
toutes ces promenades, ces errances.
Alors ça,
dis-le Marina, ça peut aider. Ça
peut aider à la promenade.
Les pays, les
toutes ces chaussures,
tous les chemins qu'il a empruntés.
De toutes ces, alors c'est pas des chaussures, mais ça permet de se déplacer. Non.
Toutes les cartes.
Non.
Tous ces déambulateurs.
Les motos.
Les motos. Ouais, bien vu. Absolument. Vous vous souvenez de toutes vos motos? Vous en avez eu tant que ça?
Il en a peut-être eu moins que des femmes. C'est pour ça.
C'est la question suivante.
Oui, je ne sais pas si c'est très comparable. J'espère que je n'ai pas fait l'analogie moi-même. Oui, je me souviens de toutes mes motos, bien sûr.
Vous avez fait l'analogie vous-même. Vous avez dit je me souviens de toutes mes motos. Je ne pense pas qu'on se souvienne de toutes ces amantes. Moi, je me souviens de toutes mes motos.
Ne me regardez pas comme ça, j'y suis pour rien.
Faut assumer.
Oui.
Leïla, t'as été oublié. C'est ce que tu veux que je te dise.
En plus, c'était sur France Info, donc on peut pas dire qu'ils ont cherché le buzz. Hein, vous voyez, c'est non, sérieux.
Je me souviens d'avoir été très malheureux sur les motos russes parce qu'elles ont une vie propre et parce que on a beaucoup de mal à les démarrer. Qu'une fois qu'elles sont en route, on ne sait pas vraiment si elles vont s'arrêter.
Enfin, c'est on le parle propre. De moto là.
Oui, de moto, ça vous emmène très loin. C'est pour ça que moi, la vraie analogie qu'on peut faire entre l'amour et la motocyclette, c'est le sidecar. C'est-à-dire que vous allez dans la même direction avec quelqu'un qui est assis dans, enfin, qui est installé dans un panier.
Bon, enfin, elle peut s'asseoir derrière aussi, votre amante.
Oui, mais sur le panier, c'est mieux parce qu'il y a quand même une distance et il y a la possibilité d'une séparation.
Ouais. C'est dangereux. Si le sidecar se
le
sépare de la moto, c'est quand même dangereux.
Oui, mais ça s'appelle l'amour. L'amour est dangereux.
Oui, donc il n'y en a qu'un seul qui dirige, quoi. C'est aussi ça l'histoire. S'il y en a qui se fait véhiculer.
Elle a raison.
Oui, enfin, dans le panier, on a.
Que 10 secondes pour répondre à cette question.
C'est le principe du transport. Hein. On n'a jamais deux volants dans une voiture. Hein.
Non, mais c'est la personne du panier qui décide de l'équilibre. Et qui peut influer sur la trajectoire.
Bien vu.
Sylvain Tesson est pédophobe, c'est-à-dire.
Il a peur des enfants.
Il n'a pas peur
des enfants. Il n'aime pas les enfants.
Il déteste les enfants. Il mange les enfants.
Exactement. Ça, je te donne, Marina.
J'ai peur.
C'est peur ou vous n'aimez
phobie,
pas?
C'est la peur.
Oui, mais vous, est-ce que vous avez peur ou est-ce que vous n'aimez
peur.
Pas?
Ça bouge tout le temps, on ne comprend pas très bien ce que ça veut. Enfin, si, et puis surtout,
on est trop nombreux sur Terre, vous dites aussi.
Non, enfin, non, bah, mais, si. Non mais les enfants, le problème des enfants, c'est que on croit que c'est mignon, mais en fait, il y a un adulte qui sommeille à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est un adulte en puissance.
Jour, c'est sûr,
mais... Oui, c'est sûr.
Quand vous parlez du Tibet, justement, vous parlez de cette qualité qu'ont les enfants de pouvoir observer sans se concentrer sur ce qu'on essaye de leur vendre au premier plan. On a l'impression que vous êtes d'accord avec eux.
J'ai l'impression, un jour, Vincent Munier, le photographe qui m'a emmené au Tibet, a montré une photographie où on voit un faucon au premier plan, il y a une panthère derrière qui est cachée.
C'est dans votre livre,
que personne ne peut voir.
Non, mais c'est ce dont parle Daniel Morin, c'est vrai.
Et seuls les enfants détectent immédiatement la panthère parce que probablement, enfin, je ne veux pas tirer de conclusions psychologiques au mystère de l'enfance, mais probablement sont-ils moins attirés par les données immédiates. Ils ne sont pas pollués par une expérience culturelle qui leur fait voir ce qu'ils veulent. Ils regardent dans les périphéries. Ça, c'est merveilleux chez l'enfant. Et j'aime l'esprit d'enfance.
Ah.
Mais j'aime l'esprit d'enfance dans les corps d'adultes.
Alors parlons de cette panthère des neiges.
Soyons précis.
Parlons de cette panthère des neiges où dans ce livre, il y a beaucoup de pensées aussi. C'est-à-dire que ce voyage, c'était plus un voyage avec vous-même, introspectif, où d'ailleurs vous retrouvez des personnes qui vous manquent, vous reformulez à votre façon un être vous manque et tout est dépeuplé, vous le reformulez à l'inverse en disant qu'un être vous manque et vous le voyez ou vous la voyez partout, puisqu'en l'occurrence, il s'agit de femmes. Deux femmes ont compté, en tout cas sont présentes dans ce livre, votre maman, et un amour, on va dire quoi, raté, manqué, en rendez-vous.
Une histoire avec une femme, voilà, que vous n'avez pas su saisir. Peut-être.
L'histoire.
Oui, j'ai une autre chute. Mais c'est cela, quand je voyais la panthère, contre toute attente, ce n'était pas des visions que je suggérais ou que je voulais absolument surimposer au visage de la bête que je voyais, mais il venait apparaître se juxtaposant sur le visage de la panthère,
l'absente.
Ce que vous avez évoqué, c'est ça, les absentes. Le fantôme de ma mère défunte, et puis cette femme aimée, mais que je n'ai pas su retenir.
Mais c'est quoi? Est-ce que c'est l'attente? Est-ce que c'est justement, quand vous disiez tout à l'heure, vous parlez d'être à l'affût, dans ce silence, vous évoquez clairement votre rejet de l'immobilité, d'ailleurs, et vous comparez cette immobilité qui vous renvoie à la mort de votre maman, en disant, pour moi, être immobile, c'est être comme maman enterrée dans un trou et d'être piégée et donc morte. De l'autre côté, le silence, de ne pas pouvoir bavarder, de ne pas pouvoir échanger avec les autres, parce que justement, il faut être à l'affût du moindre signe que la nature pourrait vous renvoyer, deux situations que vous n'aimez pas, ne pas bouger, ne pas parler, ça vous permet de voyager en vous, dans votre imaginaire, et pour aller chercher cette absente.
C'est-à-dire que je pense que nous avons des souvenirs qui sont enfouis et éteints à l'intérieur de nous, des souvenirs d'êtres que l'on a aimés, et parfois l'objet d'un désir profond que l'on possède pour la rencontre, moi c'était le cas avec la panthère, parfois l'objet de ce désir et la rencontre rallume en vous le souvenir qui a été éteint. Il y a une très belle phrase et très simple, d'un auteur qu'on aborde avec timidité parce qu'on pense qu'il est tout à fait solennel et austère, qui est Pascal, et qui dit dans une de ses pensées « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » C'est une idée sublime. C'est-à-dire que nous avons en nous des choses, nous les cherchons, nous pensons les avoir perdues, nous pensons qu'elles sont hors de nous-mêmes, et pourtant elles sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et la vision d'une bête, d'un spectacle très beau, très pur, très simple, un animal. Ça peut être un oiseau dans un bois d'Île-de-France. Ça peut être d'ailleurs un paysage, et tout à coup,
il faut qu'il y ait une difficulté dans cette attente et dans cette quête aussi de l'observation, c'est-à-dire cette panthère, elle est rare. Il y a aussi la possibilité d'attendre pour rien, ce qui serait aussi, vous le dites dans le livre, une victoire.
Oui, bien sûr que ça confère le fait de marcher beaucoup pour la voir, d'attendre longtemps, d'avoir froid, de connaître des difficultés. Probablement, ça confère un surcroît d'intensité à la rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'espérance, parce que les bêtes sont absentes, alors il faut les espérer. Ensuite, il y a la patience, parce qu'elles sont rares. Et quand elles arrivent, c'est très fugace. Donc, il faut avoir une capacité d'émerveillement très rapide. Et comme elles sont très discrètes, il faut être attentif. Donc tout ça, c'est merveilleux parce que c'est un exercice intérieur. Espérance, patience, attention, émerveillement.
C'est l'amour en fait. Quand vous parlez de tout ce qui est réminiscence qu'on a en soi, finalement des choses qui sont redéclenchées à l'apparition, ne serait-ce que ça. Dans le bouquin, il y a première apparition, deuxième apparition, on est dans l'éducation sentimentale, c'est l'apparition tout d'un coup de cette femme tant désirée par un personnage, et je trouve que ce qui est peut-être c'est la première fois, je crois, Sylvain Tesson, dans un livre, vous vous racontez autant vous.
C'est la première fois que je parle d'amour, mais c'est peut-être la preuve d'une grande incompétence que de devoir aller dans des grottes par moins 30 au Tibet, en faisant la constatation de l'absence pour enfin prononcer le mot de l'amour.
Non, mais chacun son chemin, quoi. Mais c'est vrai, il y a quelque chose de très amoureux, en fait. J'ai l'impression que je vous découvre avec une veine plus romantique, il y a quelque chose de nouveau même dans l'écriture.
Il y a plusieurs formes d'amour. Il y a l'amour entre les êtres humains, mais il y a aussi l'amour de la nature, l'amour de cette planète, parce qu'il y a aussi des messages très écolo, anti-chasseur, puisque c'est un chasseur d'images, entre guillemets, Vincent Munier, qui vous emmène là-bas, et vous faites un petit parallèle, évidemment, avec le chasseur qui va tuer cette bête pour qu'elle se retrouve sur les épaules d'une
Il y a même des mots très durs pour les chasseurs.
Oui, et puis pour celle qui porte les aussi.
Non, qui tue par amour, mais est-ce qu'il a l'amour de soi-même assez développé pour se tirer une balle dans la tête ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un discours de la chasse qui me paraît complètement absurde, qui consiste à parler de la régulation d'écosystèmes qui sont de toute façon totalement artificiels. Donc c'est évidemment très facile de dire qu'on va réguler un système qui est dérégulé. Et puis il y a un discours Alors là, qui m'est très étranger, le discours de la chasse sur l'héroïsation, la dimension tragique de la vie. Oui. Enfin, vous comprenez, les chasseurs qui vous expliquent que c'est normal qu'on les critique puisqu'on est une société complètement abattardie, affadie et qu'on est des espèces de minets qui ne comprennent rien à la beauté tragique de la vie. Enfin, excusez-moi, mais tirer sur un faisan obèse avec une décharge de chevrotine un dimanche matin de novembre, c'est pas tout à fait Achille sur la plaine de Troie.
Là, vous faites référence clairement à un courrier que vous avez reçu, justement après avoir pris position de façon très virulente dans un article, et je crois un peu le président de la Fédération des chasseurs ou quelqu'un de cet acabit-là s'est adressé à vous en vous disant que vous n'étiez qu'un urbain, un miné avec mocassin à gland, quoi. Et que vous
veniez, c'est la réponse qu'ils font tout le temps.
Vous reveniez d'Afghanistan, c'est ça qui était drôle quand vous avez reçu ce courrier.
Oui, mais c'est ça, c'est la réduction, si vous voulez, c'est l'utilisation du mot de bobo qui est immédiatement convoqué, immédiatement saisi et immédiatement jeté à la face de l'interlocuteur qui se permet de nuancer vos propos. Alors évidemment, quand il y a le désert d'arguments, ben on fait pousser, on se raccroche à l'utilisation du mot bobo.
Et toujours dans cette même sortie, vous dites si c'est les chasseurs disent on aime la nature, c'est pour ça que nous aimons la chasse.
On la protège,
voilà. Et vous dites donc si heureusement qu'ils n'aiment pas les tableaux, sinon ils rentreraient dans un musée pour lacérer à coups de photos les voilà Velázquez et autres. Il y a également beaucoup de pensées et de regards sur notre monde. C'est en effet une histoire d'amour, mais déclinée, ou plusieurs histoires de plusieurs amours. C'est absolument passionnant, cette quête spirituelle que vous avez faite à travers ce récit d'aventure. Ça s'appelle La Panthère des Neiges, je le rappelle. C'est chez Gallimard. Le seul petit reproche que je pourrais vous faire, parce que en fait, je me suis posé la question de à quel âge pourrions-nous lire ce livre. C'est qu'il y a quand même beaucoup de mots. Moi, j'ai lu votre livre, je le reconnais sans aucune honte. J'ai lu votre livre avec le dictionnaire à côté, parce que toutes les quatre lignes, il y a un mot qui sort de nulle part, qui fait pas partie des 120 mots que je manipule au quotidien. Et donc, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est formidable, parce que l'exercice me pousse à aller voir dans le dictionnaire ce que veut dire tel et tel
vous
et
les
tel
avez
mot.
Tous trouvés, oui.
Oui,
j'en avance.
Alors, c'était plus délicat sur le
Vaquer, fier comme un Vaquer.
Le vautour, quoi.
Le gypaète. Ah oui, mais il y a des noms d'animaux.
Technique.
Mais c'est merveilleux, les noms, même quand on les connaît pas. C'est des voyageurs, on sait pas d'où ils viennent. Regardez.
Non, mais l'once, j'avais, vous voyez, j'étais pas.
Ça réhabilite le latin, en plus, voilà. C'est bien.
Mais regardez, vous aimez nous signaler les nouveautés de ce qui sort, de la production culturelle, les nouveaux livres, les nouveaux.
C'est pas
films.
Ici que ça se passe, hein, la culture. Hein.
Un peu, quand même. Vous aimez ça, vous traquez l'extraordinaire efflorescence de nouveaux. Faisons-le avec les mots aussi, c'est merveilleux découvrir de nouvelles fleurs dans un champ.
Simplement dire que pour un enfant, et j'aimerais que des enfants lisent votre livre, parce que c'est une belle leçon aussi de vie, d'observation, de patience et d'obstination, qu'un enfant de, je sais pas, 10-12 ans s'amuse à lire le livre.
Je vais dire quoi, enfant? Je vais regarder dans le dictionnaire.
Et je rappelle qu'il est pédophobe, hein, c'est bon.
On va mettre un glossaire en ligne, voilà, comme ça ils pourront y avoir accès.
Ou alors on peut imaginer l'animal en fonction du nom que vous
du
lui
nom,
donnez.
Ouais.
Oui, vous avez compris que la panthère n'est pas un oiseau. Elle ne vole pas.
Merci pour ce respect. Je savais que je suis sincère deux secondes et voilà, je me fais tacler. La Panthère des Neiges, en tout cas.
Non, on n'est pas habitué, Nagui.
C'est chez Gallimard, mais avant que ça se reproduise, c'est chez Gallimard. Tom Villa va poser les questions et je vous rassure, Sylvain, il va également donner les réponses. Tom.
Sylvain Teston, merci de revenir dans la bande originale pour votre petite visite de la saison. Voilà, c'est vrai, vous venez au minimum, je sais pas, une fois par an, je crois.
Une fois tous les deux ans.
Ah, pardon, monsieur pointilleux. En tout cas, merci de revenir régulièrement. Hein. En général, nous, on n'a pas le droit aux invités intelligents, c'est vrai, c'est réservé à Laura Adler et à la météo marine. Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'équipe de la bande originale?
Ils n'ont pas été irrigués par la raison.
Ah oui, c'est vrai. Et derrière cette vérité cruelle, il y a bien un petit message d'espoir, quand même.
Le progrès arrive, tenez bon, nous arrivons.
Ah, ça, c'est un beau message, hein, ouais. C'est vrai. En tout cas, on est ravis de vous recevoir et, oui, Sylvain, une question?
Sommes-nous libres?
Oh là. Comme ça, à blanc, là.
T'as deux heures, tu réponds tout de suite.
Bah, en tout cas, à la bande originale, oui, on est libre. Pourquoi vous vouliez lancer un petit débat?
Il y a des débats un peu byzantins d'universitaires qui se demandent qui était Homère.
Oui, bah non, en fait, on va pas commencer à se lancer dans ce dans ce débat. Non.
L'homme est méchant.
Non, il y a rien de méchant de ma part. C'est juste que voilà, j'ai peur qu'on soit court en temps. Déjà que Laetitia Gaillet démarre le journal de midi à midi et quart. Donc voilà,
dis donc,
j'ai pas envie de qu'on déborde. En tout cas, je vous admire, Sylvain, qui vous voyagez à pied, vous escaladez, vous faites du cheval. Moi, déjà, quand je dois prendre l'avion et que je réalise qu'on nous emmène en petit bus pour monter l'escalier, ça me déprime.
Mais c'est peut-être une pathologie.
Non, c'est juste que je suis feignant. Surtout par rapport à vous, c'est vrai. Sylvain Tesson, au retour des vacances de la Toussaint, il nous explose tous à la machine à café. T'as été où, Daniel? Bah, j'ai mangé des crevettes en Vendée. Et toi, Sylvain? Bah, je suis parti sur la trace de la Panthère des Neiges, sur le plateau du Tibet. Oh, d'ailleurs, Sylvain, je vous suivrai bien de ces quatre. Vous allez où pour les vacances de Pâques?
6 mois à Moscou.
Ouais, c'est peut-être un petit peu long. Je dirais qu'il y a 6 mois de trop, mais bon, je... Et vous comptez dormir où?
En haut d'un arbre.
Non, ça va le faire pour moi. Il y aurait pas des endroits plus confortables?
Ou en haut d'un mât de bateau.
Non, je peux pas. J'ai l'eau fragile. Il me faudrait un minima sur matelas. En plus, j'ai le vertige. Et puis, la nuit, moi, je me relève 3 fois pour aller aux toilettes. Déjà que je me prends la table basse, alors en haut d'un mât de bateau. Enfin, bon, bref, c'est une galère. La flemme, quoi.
C'est un problème qui est absolument insoluble.
Bah, si. En fait, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais lire vos livres. Et puis, vous voyagez à ma place. C'est très bien, comme ça. D'ailleurs, moi, je me demandais, avec tous les lieux magnifiques que vous avez vus dans le monde entier, lequel vous nous conseillez?
L'Indre-et-Loire.
L'Indre-et-Loire. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'Indre-et-Loire?
Des supermarchés.
Ah, bah, ouais, comme ça, on en apprend tous les jours. En tout cas, bonne émission. Je vous laisse entre les mains de Nagui. Hein.
Lui, c'est un homme de la gaieté.
Exactement. Notre petit pharaon lumineux, comme on aime à l'appeler. Mais si vous avez un autre surnom, il est le bienvenu. Hein.
La mémère à son chien.
Moi, bon, je vous laisse voir ça avec lui. Bonne émission.
Merci,
Tom. La bande originale. Nagui. Sur France Inter.
Tom évoquait son dos fragile. Vous aussi, vous en parlez, Sylvain Tesson, dans votre livre La Panthère des Neiges, parce que vous culpabilisez un tout petit peu. Vous dites au début, est-ce que je vais être utile? Est-ce que je serai un peu le boulet de cette expédition où il y a 4 personnes, Marie, Léo et Vincent. Vincent étant le photographe, Léo étant son aide, son technicien pour réparer les appareils photo.
Ancien étudiant en philosophie, donc c'est bien d'emmener un philosophe avec soi dans les grandes étendues.
Et Marie étant la fiancée de Vincent, son amour, ce qui fait qu'ils partagent un coin de la grotte en duplex, vous étant dans l'autre partie de la grotte avec Léo, qui n'a pas toujours envie d'entendre d'ailleurs ou de bavarder avec vous, ce qui vous permet d'aller encore plus loin. Vous dites, visiblement il m'écoute pas, donc je continue. Et donc d'être celui qui est fragile après votre accident, vous ne pouvez pas porter de poids trop lourd pour votre dos. Est-ce que vous êtes vraiment posé la question d'être le boulet, celui qui sert à rien?
Oui, parce que d'abord il y avait un danger, c'était que j'arrive pas à contrôler mon bavardage effréné, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup voyagé. J'ai tout seul à travers les steppes, les déserts, donc j'ai pas l'habitude d'être interrompu quand je commence à parler. Il y a personne, je parle à mon cheval, je parle au ciel et je peux tenir comme ça des heures.
Alors, évidemment, à haute voix d'ailleurs, quand vous parlez à votre cheval et au ciel, c'est à haute voix ou vous
c'est à haute voix, intérieur. Tout cheval opine, mais après.
Le ciel moins.
Oui, mais parfois il tonne, mais du coup ça n'autorise pas, si vous voulez, à la concision. Et c'est d'ailleurs un problème après quand on est invité chez vous, c'est qu'on comprenait pas. Moi, je comprends pas pourquoi vous me posez plus des questions alors que je suis en train de répondre à la précédente. Et je pourrais tenir comme ça pendant 40 minutes. Non, mais voilà. Alors, il fallait que je me taise parce que sinon,
on a plein de choses à vous dire.
On n'avait aucune chance de voir des animaux. Et ce que je me suis permis de faire de temps en temps, c'est d'écrire des aphorismes que je leur lisais, parce que je trouve que des gens comme par exemple Jules Renard au début du XXe siècle offraient à la beauté du monde, un aphorisme, quelques mots. Il voit un papillon, le billet d'amour que s'envoient les fleurs. Ça peut paraître cucul à praline de dire ça, c'est Jules Renard. Et bien, je trouve ça superbe. L'homme n'a pas grand-chose à offrir à la nature. Il peut offrir des mots. C'est d'ailleurs notre propre, je crois.
Notamment, vous vous êtes essayé à ce genre d'aphorisme à la Jules Renard, justement, autour des animaux, et de tester le soir, au coin du feu ou du poêle, vos aphorismes devant votre public de 3 personnes. Vous n'étiez pas trop convaincu du résultat, on a l'impression?
C'est-à-dire qu'ils sont très amicaux. Alors, de temps en temps, ils me faisaient une approbation, mais je sentais que derrière l'approbation trop enthousiasme des amis, il y a toujours la consternation, en fait.
Et l'humour qui est présent, c'est vrai, qui, d'ailleurs, dès les premières pages, vous n'hésitez pas à faire la vanne de dire « Vincent Munier m'a servi le Tibet sur un plateau ».
Oui, il fallait que quelqu'un se débarrasse. Mais j'ai choisi d'être à 10 000 km de Paris pour faire ce genre de
jeu de mots.
Oui, de mauvais jeu de mots.
Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges, c'est chez Gallimard. Tout de suite, voici Marina.
Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais réagir à l'annonce faite par Netflix la semaine dernière que la plateforme de streaming de contenu allait permettre de visionner son catalogue à différentes vitesses, y compris en accéléré. Mmh. On est très très loin de la Panthère des Neiges, hein. On est très très loin de la décroissance, l'immobilité, l'attente. Alors pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce monde, ces impudents qui n'ont pas écouté l'émission d'hier avec Artus et une spécialiste média dont Nagui a écorché le nom à cause d'un sous-fifre licencié depuis, je rappelle donc que Netflix est une plateforme qui propose des émissions de reportage, des documentaires, des séries et des films de fiction. C'est donc pas vraiment un outil qu'on utilise pour bosser ou pour écrire une thèse. C'est vraiment fait pour se divertir. Et là, on nous propose de le faire plus vite. Ah, bonne nouvelle. Sachant que vous pouvez déjà, grâce au fait que les séries sortent une saison en bloc et non plus de manière hebdomadaire, on pouvait déjà donc faire ce qu'on appelle binger du contenu, du verbe binge en anglais qui veut dire s'empiffrer, et que depuis quelques années, on ne parle plus de film ou de série, mais bien de contenu, les arts audiovisuels devenant donc une espèce de matière indifférenciée dont on peut s'empiffrer. Et là, bonne nouvelle, on va pouvoir faire ça plus vite. Vous voyez un peu où ça devient problématique sur des questions un peu existentielles comme ça. Alors déjà, il va falloir trouver un autre terme que binger. Moi, je propose gober ou aspirer. Ce week-end, c'était super, j'ai ventousé 28 heures de contenu. C'était quoi? Bah, je sais pas, je pourrais pas te dire, j'ai regardé ça à vitesse x4, mais à un moment donné, je crois qu'il y avait Christian Bale ou une très belle fouine, je sais pas. En tout cas, c'était vraiment super. Mais surtout, qu'est-ce que ça dit de nous qu'on veuille voir des trucs, mais pas au point de vraiment prendre le temps de les regarder? Qu'est-ce que c'est que cette idée de, même quand t'es censé te détendre, vouloir déjà être au bout de la chose? Moi, c'est une réflexion que je m'étais faite à l'époque où je bossais dans des bureaux. Car oui, j'ai travaillé dans des bureaux, les amis, dans la communication plus précisément. J'avais pas vraiment fait les études pour, mais j'avais un bon CV, je me suis bien débrouillée en entrevue et du coup j'ai réussi à me faire embaucher dans la boîte de mon père. Et j'étais pas très heureuse dans ces bureaux et un jour j'ai constaté que la journée je me réjouissais d'être le soir et la semaine je me réjouissais d'être le week-end et pendant l'année je me réjouissais d'être en vacances. Mmh. Et je me suis dit mais en fait si on pousse la logique jusqu'au bout je me réjouis de mourir en fait. Parce que c'est vrai, si t'es dans le fast-forward constant, à un moment donné, t'atteins la fin de la bande. Oui et non, puisque justement, dans cette métaphore, Netflix, c'est plus l'époque du divertissement physique où il y avait des cassettes, des DVD, des supports qui avaient une fin. Là, c'est un flux qui pourrait être continu et infini. On pourrait, grâce à Netflix et au visionnage accéléré, revenir à une espèce de stade infantile dans notre vision du monde. Des sons, des couleurs un peu indifférenciées. Tout est très agréable, mais un peu flou, comme ça. Et vivre dans une espèce de liquide amniotique du divertissement. Et en même temps, je blâme pas tous ces outils. Hein. Moi, on est en demande, il me semble. On veut s'oublier. Vous imaginez la pression des gens chez Netflix qui s'occupent de développer du nouveau contenu. Des millions d'abonnés qui pourraient, si Netflix se relâchait ne serait-ce qu'une minute, voir leur esprit conscient et leurs pires angoisses se collisionner. Comme ça, ce serait terrible. Donc, on se maintient un peu en vol stationnaire, comme ça, grâce à ces espèces d'aiguilleurs du ciel postmoderne que sont les gens qui nous donnent du contenu. C'est un peu le carburant du déni, finalement, les trucs comme Netflix. Et comme, moi y compris, hein, on est de plus en plus en demande de moments d'oubli sur commande, ils peuvent pas nous donner que des bons films et des bonnes séries. Parce que les bons films et bonnes séries, ça te fait ressentir, ça te fait réfléchir. Et c'est pas ça qu'on demande. Nous, on veut des toiles de fond, une espèce de pseudo-relaxation. Je sais pas si vous avez déjà entendu des amis vous dire « Ouais, c'est pas mal. Enfin, faut regarder en faisant autre chose. » Donc, c'est assumer qu'on regarde pas vraiment. Alors, on peut dire de manière générale que depuis la nuit des temps, de toute façon, c'est pas l'histoire qui est importante. On raconte la même histoire. Hein. Sylvain Tesson, il est bien placé pour le savoir. Vous qui vous êtes attelé à l'Iliade et l'Odyssée à l'été 2017, on le sait qu'au fond, il y a aucune différence entre Homère et le miel et les abeilles. Je veux dire sur le fond, sur ce qu'on raconte. Après, c'est la forme qui varie, c'est vrai, mais on raconte les mêmes histoires. Le problème, c'est que Netflix, ils ont moins en moins de temps pour soigner la forme. Ce qui fait qu'en tant que spectateur, on sait de plus en plus où ça va. Donc, on est un peu tenté d'accélérer. Donc, on arrive plus vite au bout de ce contenu qu'on trouvait pas très fascinant à la base. Mais donc, on sera plus rapidement prêt pour le contenu suivant, qui devra donc être produit de plus en plus à la hâte et de manière de moins en moins qualitative, puisqu'on met le même temps à produire des films, mais qu'on va mettre de moins en moins de temps à les regarder. Ce qui me fait dire, au final, il faut pas blâmer les nouvelles technologies pour les usages auxquels elles répondent. Il faut se demander ce qui, dans nos modes de consommation, a fait dire à un des plus gros studios de création actuels, qui aurait les moyens de faire des trucs super, bon, de toute façon, autant les laisser accélérer, vu qu'ils s'en foutent de ce qu'on leur donne.
Bravo, Marie. Bravo, super.
La bande originale.
Mais c'est vrai?
Non seulement c'est vrai, mais c'est extrêmement intelligent, cette analyse et cette vision. Sylvain Tesson, vous en pensez quoi?
Ah oui, moi je souscris parfaitement, je trouve ça formidable. Et ce mot de contenu est incroyable. Enfin, les choses viennent des mots. Et finir par appeler la production d'un esprit, une production poétique ou une œuvre artistique, un contenu, c'est vraiment nous ramener à un vocabulaire stomacal. Quoi.
Enfin, et cette image très philosophique de la consommation sans fin.
C'est ça.
C'est-à-dire que on est dans un flux et on ne sait pas.
Non, puis on pourra en profiter en le consommant doucement.
là, c'est de plus en plus rapide.
C'est
du gavage.
Oui, c'est de l'hydrographie, en fait. C'est quelque chose de... Tout ça finit dans un tuyau, quoi. C'est YouTube. Vous êtes un rectum. YouTube.
Alors, tu vois, je te l'ai dit, Nagui. Je te l'avais dit.
Mais oui, sauf que tu parles pas latin, toi. Ce que précise, en reprenant les mots utilisés par Marina Rollman sur ce gavage, sur ce côté on gobe, on aspire, ça rejoint ce que vous dites, vous, dans votre livre aussi, sur l'homme moderne et son obésité. Vous le qualifiez, vous dites, c'est à ça qu'on reconnaît l'homme moderne aussi.
Oui, je parle évidemment pas de l'obésité physique, non, physiologique, mais c'est l'obésité symbolique. Du tout tout de suite et du trop de tout. La contemplation de la nature vous offre autre chose que le tout tout de suite. Le tout tout de suite, c'est Internet. Je veux aller en Thaïlande, je veux voir un film, je sais pas quoi, coréen, je veux manger un hamburger, tout tout de suite, immédiatement, en appuyant sur un bouton. La contemplation de la nature vous ramène au peut-être rien, jamais. Et c'est dans l'intervalle de l'attente qu'il va se passer des choses, des aventures. Davantage que dans le tuyau excrémentiel qui vous ensevelit sous son contenu, quoi. Il vaut mieux être assis devant un spectacle qu'embarqué dans un grand collecteur d'égouts.
La musique, alors le silence.
Dit comme ça, oui.
Le silence était au.
Incontestable.
Le silence était au rendez-vous de cette observation de la Panthère des Neiges, Sylvain Tesson. Mais la musique est quand même citée. On en reparlera, puisque vous citez des grands compositeurs et leur obstination. Ce mot-là aussi, j'aimerais qu'on l'évoque ensemble. Mais la musique, celle de la bande originale de La Vie de Sylvain Tesson. On va commencer évidemment en 72.
Rien ne va, plus rien ne va pour vivre. Comme un homme, comme un homme, comme un homme doit, plus rien ne va pour vivre comme un homme doit.
Qu'évoque cette chanson pour vous ?
C'est un chanteur, un barde, comme on dit en Russie, c'est le mot qu'ils emploient, le barde, qui s'appelait Vladimir Vysotsky, qui est mort dans les années 80 en Union soviétique, et qui chantait en russe, mais qui a chanté deux chansons en français. Je trouve cette voix extraordinaire, c'est la douleur russe, c'est la voix qui a du mal à passer par un gosier qui préalablement a avalé pas mal de vodka.
Et du gasoil aussi.
On sent la limaille de fer.
On croirait Arnaud.
Oui.
C'est vrai, il y a Arnaud, chanteur belge Arnaud. On vous fera écouter, apparemment vous le connaissez pas, mais c'est dans cet esprit-là. Oui.
La rap de l'âme, c'est la proté, et pour moi c'est la Russie, quoi. C'est la douleur russe, c'est la steppe.
72, c'est Sylvain Tesson, l'année de votre naissance. Tout à l'heure, vous parliez de votre famille comme d'une chaîne info continue. J'aimerais qu'on a évoqué la figure de votre père, Philippe, qui a fondé le Quotidien de Paris, qui était ancien rédacteur en chef de Combat, qui est aussi un grand amoureux de théâtre. J'aimerais qu'on évoque davantage votre mère, puisqu'il en est aussi question dans La Panthère des Neiges. On dit, quand on lit des portraits de votre mère, c'était une femme hors norme. En quoi elle était hors norme à son époque ?
Mais d'abord, elle était très dissimulée, ma mère. C'est-à-dire que dans ma famille, il y avait le théâtre et il y avait la coulisse. Le théâtre, la scène, la scénographie, c'est mon père qui vit toujours. Il a 92 ans, il est doté d'une énergie, enfin c'est une anomalie biologique mon père, parce que moi j'ai parfois une fatigue physiquement. J'ai l'impression qu'il est dans une espèce d'inépuisement de lui-même. Et puis ma mère, c'était une forme de dissimulation, de retrait, de rétractation, de solitude. Mais elle était là. Alors c'est là où se trouve le hors norme des êtres, c'est quand leur absence cache en fait une capacité d'agir sur la vie, mais qui ne s'exhibe pas.
Ouais, elle était docteur en médecine, elle a fondé l'ONG Équilibre et Population, elle pilotait des hélicoptères. Alors elle était dans l'ombre, en coulisses, mais quand même.
Oui, elle agissait. Oui. Elle était une femme d'action. Elle était médecin. Elle avait fondé le Quotidien du médecin dans les années 1972, et elle a beaucoup voyagé. Elle voyageait beaucoup en Afrique à la fin de sa vie parce que elle s'occupait de cette association Équilibre Population. Et puis elle est morte subitement Probablement, alors c'est difficile les explications a posteriori, mais souvent les médecins ont une négligence à leur propre égard, alors qu'ils ont beaucoup de sollicitude pour les autres, mais quand il y a une urgence qui commanderait qu'ils s'occupent vite de leur propre survie, ils sont désinvoltes, ils sont nonchalants. Je crois que c'est peut-être une définition de l'altruisme, de se mépriser soi-même.
Vous avez un rapport aux dates assez particulier quand même, parce que vous dites les années 1972, alors que 72 n'est qu'une année, mais dans le livre vous employez le siècle 21 aussi. C'est-à-dire vous avez un rapport à la manière de parler des dates assez étonnant.
Ah, peut-être, parce que je m'y prends mal avec les chiffres, j'aime pas trop ça. Alors, je suis à la fois vague et précis pour les chiffres.
Donc les enfants et les chiffres.
Oui, les chiffres, oui, c'est...
Deux trucs
numérophobes. Les chiffres ont fait souffrir mon enfance.
Ah, ça vient de là, peut-être.
Dans les années 1991, vous écoutiez... On va resituer parce que le moment est fort. C'est Rostropovitch, au pied du mur de Berlin, avec son violoncelle.
Oui, en 89.
Un vendredi soir de novembre 89, c'est ça, en train de jouer.
Oui, bah c'était la chute du mur de Berlin, et mes parents nous ont emmenés, mes sœurs et moi, en automobile à Berlin. Et on a vu la foule passer de l'Est à l'Ouest.
Stéphanie et Daphné.
Oui, Stéphanie et Daphné. Et mon souvenir d'enfance... Ce que j'ai vu dans les yeux, dont je me souviens encore, dans les yeux des Allemands de l'Est qui passaient à l'Ouest, bizarrement, je n'ai pas vu une annexion. Vous savez que c'est le mot que Jean-Luc Mélenchon a employé pour désigner la réconciliation. C'est étrange d'employer ce mot. J'ai pas vu non plus dans le bombardement d'Alep une libération. Et j'ai pas vu du tout une annexion dans cette réconciliation. J'ai vu au contraire un mouvement extraordinaire qui laissait penser que peut-être l'histoire du XXe siècle les menait à une concorde ou à un apaisement de l'humanité. Ça n'a pas été le cas.
Et on peut voir en ce moment devant la maison de la radio un bout du mur de Berlin.
D'ailleurs, il faudrait venir débarrasser, c'est dégueulasse.
Je trouve ça assez émouvant de voir ça, en vrai, surtout si on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Pour revenir à l'année 91, Sylvain Tesson, vous commencez à voyager avec un ami. C'est pas un petit voyage, vous partez faire la traversée de l'Islande à vélo. Un mois de vélo au moins, enfin je crois que c'est un peu plus. Qu'est-ce qui a déterminé cette destination, ce mode de locomotion?
Le maillot jaune.
Cette envie. Non, mais c'est vrai, c'est...
Non, mais j'ai du mal à répondre à cette question parce qu'il me semble que quand on a 20 ans, quand on a un vélo, il n'y a pas d'autre chose à faire que de faire un voyage, quoi.
Mais on peut avoir 20 ans des pieds ou 20 ans une carte pour prendre le train, faire l'interrail. Enfin, ça peut être différents modes de trajet.
Oui, mais peut-être que j'avais déjà... Enfin, c'est difficile de parler de ça parce que d'abord, ça remonte à ma plus haute antiquité. Mais j'avais déjà probablement le goût... Il y a quelque chose qui est indéniable, c'est qu'il y a un rapport proportionnel entre l'intensité, le sentiment de profondeur du voyage que vous accomplissez et l'effort physique.
Ouais.
Le côté l'épuisement, l'esquintage ou l'esquintement, je ne sais pas comment on dit, le fait de s'esquinter physiquement. Et moi j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours eu le goût, c'est pas du masochisme, mais peut-être quand même un peu, c'est une forme de désir d'arracher à la difficulté, à une forme d'âpreté, les kilomètres que je fais. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de supplémentaire qu'il me semble éprouver.
Et si on en revient à l'amour à 19 ans, quand on est un jeune homme, on est en hypocagne, est-ce qu'on on rêve pas aussi d'être deux plutôt que de partir en Islande avec un camarade?
C'est-à-dire
ça n'empêche pas.
Oui, mais...
Quelques mois après, je suis parti faire le tour du monde à bicyclette. Ça vous éloigne quand même de la rencontre amoureuse, ces choses-là. Oui. Non. À ce moment-là, je tournais dans ma cage en plastique. Et les hamsters ne sont pas des êtres très amoureux au début. Il faut qu'ils sortent de leur cage pour trouver l'âme sœur.
Vous avez toujours fait des parallèles entre les animaux et vous?
Oui, en tout cas, ce ne sont pas des parallèles très flatteurs, parce que si je me compare à un hamster, mais oui, je trouve que...
Pourquoi le hamster? Pourquoi mépriser le hamster?
Non, mais j'aime beaucoup le hamster, mais c'est sa frénésie qui me rappelle mes années de 20 ans.
C'est pas sa frénésie, c'est celle dans laquelle on le met en cage.
Oui, c'est vrai, vous n'avez pas tort. C'est vrai que le pouvoir, c'est la cage du hamster, en fait, qui ressemblait plutôt à ce que je faisais du monde, quoi. J'avais un usage du monde qui était un peu fébrile. Mais non, mais la représentation, la comparaison, l'analogie avec l'animal, c'est merveilleux, finalement, parce que là, enfin, je sais pas, on lit les fables de La Fontaine, on se dit, tiens, c'est quand même étrange d'avoir voulu cette permanente analogie avec les bêtes. Mais en fait, c'est quelque chose de tellement naturel, de tellement juste, de tellement évident, de tellement efficace. Cette politique des animaux, cette société de l'animal, ces travers, cette transposition de tout ce que nous vivons et qu'on retrouve dans le règne animal, ça n'est pas du tout abusif. C'est au contraire une photographie extrêmement juste. Et il me semble, moi, que nous avons tous ce totem de l'animal en nous.
Et si vous deviez vous associer à un totem, vous racontez que Tesson, l'origine de Tesson, c'est blaireau. Mais quel animal vous conviendrait le mieux?
Non, alors l'étymologie, ouais. L'étymologie du mot, c'est même taxi. Il y a le taxi, le taxos, c'est ça?
Taxidermie, la taxinomie, l'art de nommer.
Et c'est d'autant plus surprenant que c'est vrai que vous commencez par l'étymologie de votre nom de famille en le comparant, en disant que c'est l'animal et c'est donc le blaireau. Mais plus loin dans le livre, les deux trois fois où vous servez de votre nom de famille comme d'un nom commun, c'est plutôt dans des éclats, dans des tessons de verre qui sont dans le ciel.
Bah, vous êtes aimable et amical de dire l'éclat, parce que c'est le débris aussi, c'est la miette, quoi. C'est le débris, le tesson, c'est terrible.
C'est le sens de l'accueil chez Nagui, il transforme les choses, il est fort.
Le débris, mais ça explique... Moi, j'ai une obsession pour le... Enfin, ça paraît cuistre de dire ça, mais c'est très vrai. Ça vient peut-être de mon nom, s'il y a un rapport psychanalytique au nom qu'on porte, entre le... J'ai une forte interrogation entre tout ce qui concerne l'émiettement, le débris, la diffraction des choses et leur unité. Je passe ma vie à essayer de me rassembler, et parce que je suis un tesson. Alors évidemment, mon nom étymologiquement veut dire le blaireau, l'animal, pas l'expression désobligeante, dont je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on appelle un abruti un blaireau. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'est un animal merveilleux.
Ni un âne, un idiot, alors que l'âne est un animal très intelligent.
Très intelligent, non mais ça c'est abusif.
Et le porc est un animal extrêmement propre, et pourtant on dit tu te comportes comme un porc.
C'est vrai, alors que c'est l'animal le plus proche de l'homme, d'ailleurs.
C'est la vision, oui, absolument, en termes d'ADN, mais c'est la vision qu'on a des animaux.
Mais alors, je ne sais pas, moi, quel est votre animal totem, mais le mien, puisque vous me posez la question.
C'est l'escargot.
Alors, l'escargot, je l'aime bien parce qu'il recule jamais, mais j'aime. C'est un écrivain qui s'appelle Jean-Luc Cotalem qui avait inventé l'idée que l'écrivain, c'était un calamar, une sèche, c'est-à-dire un grand nuage d'encre pour embrouiller tout, et hop! On disparaît en reculant.
Grégory Breton, on va continuer à parler des animaux avec vous. Grégory, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Vous êtes directeur de l'ONG Pantera en France, avec son site internet pantera.org pour les passionnés, les amoureux. Vous avez passé 14 ans au Parc des Félins de Lumigny en tant que conservateur et directeur adjoint. D'ailleurs, quand on aime les animaux, être dans un parc où ils sont cloîtrés, c'est la meilleure des choses à faire?
C'est une excellente question. Et ce qu'il faut retenir en quelques mots, c'est que les parcs zoologiques ont énormément évolué au cours de ces dernières années. Et le travail qui est fait dans un grand nombre de parcs est de qualité aujourd'hui. Donc bon, je suis pas venu pour parler défendre la profession des parcs zoologiques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que
on n'est pas là pour attaquer non plus.
Ce sont des acteurs de la conservation aujourd'hui, au même titre que les gens qui travaillent sur le terrain. Et on peut pas les négliger.
Pardon, ce discours-là est aussi ceux qui ont des delphinariums en disant le dauphin, oui, il se morfond, oui, il ne bouge plus, oui, il est en train de se laisser mourir, mais il a vécu 40 années dans ce bassin, alors qu'il serait peut-être mort plus rapidement dans les océans.
Alors ça c'est une bonne comparaison, mais en fait le règne animal est très très divers. Il y a des millions d'espèces et la captivité n'est pas, on peut pas mettre les animaux en captivité de la même façon suivant les espèces. Et si vous voulez, moi je suis un spécialiste. J'ai fait différentes études en éco-éthologie. J'étudie aussi les animaux dans la nature et il y a des espèces qui se comportent et qui vivent très très bien en captivité, qui sont très simples à héberger, qui vont pouvoir se reproduire, vivre très longtemps, et même pouvoir éventuellement fourrager ou chasser. Et il y en a d'autres pour lesquels la captivité est plus dommageable.
Dépressive, carrément.
Voilà, exactement.
Et la panthère, et cette fameuse panthère des neiges, il y en a si peu. Sylvain Tesson, dans son livre, dit qu'il en reste 5000 sur la planète.
Bon, le chiffre est correct. Alors, les estimations sont un peu plus complexes, en fait, suivant les spécialistes. On estime entre 4000 et 8000 individus à l'état sauvage. C'est un animal. Donc, la panthère des neiges est plus proche du tigre, génétiquement, que des autres panthères, la panthère commune ou léopard. Et elle vit dans 12 pays d'Asie centrale, donc en altitude, de 500 mètres à 6000 mètres d'altitude, pour faire schématique. C'est un très très bel animal qui pèse à peu près 40 kilos, voire 60 pour les plus gros mâles, avec une queue magnifique. C'est le félin qui a en proportion la queue la plus longue, et elle est vraiment utile pour tout un tas de choses dans sa vie au quotidien. Et aujourd'hui,
il est en voie de disparition.
La panthère des neiges est en voie de disparition, comme la majorité des animaux aujourd'hui sur notre planète, des grands vertébrés, des carnivores encore plus, hein, puisqu'on les persécute, nous les humains. Et donc, pour conclure, la panthère des neiges, c'est un animal, contrairement au lion, qui est très globalement assez facile à voir dans les savanes africaines ou les semi-forêts, on va dire. La panthère des neiges vit dans des zones très très reculées où la densité humaine est très très faible, et c'est des milieux très escarpés. Mmh. Et estimer les populations, c'est très très difficile. On les voit pas directement. Donc les seuls outils que l'on utilise, nous spécialistes, c'est ce qu'on appelle des pièges photographiques, qui vont capter les images ou des films des animaux quand on n'est pas là. Parce qu'effectivement, vous l'avez très très bien dit pendant toute la première partie, ce sont des animaux qui sont très très discrets, qui vont être capables de vous voir et de disparaître sans un bruit, et vous n'avez rien vu, rien compris. Rien.
Dans le silence du pas sur la neige, comme exactement, c'est décrit dans le livre de Sylvain Tesson. Est-ce que, justement, vous dites, c'est l'homme qui détruit cette planète?
Ah oui, complètement, animal, ouais. Complètement. Ce qu'il faut retenir.
Parce que l'homme n'a pas de prédateur à part lui-même.
En quelques mots.
Il est en haut de la chaîne.
Oui, il est en haut de la chaîne, et il a développé des outils très, très puissants qui permettent d'éradiquer. Déjà, on s'éradique entre nous, je veux dire, entre nous humains. On a créé la bombe et on se bombarde et on s'entretue. Alors, la faune sauvage, la nature, on veut la maîtriser. Depuis que l'humanité s'est dressée, on ne rêve que d'une chose, c'est de contrôler la nature. Je vais juste revenir par rapport aux félins.
Oui.
Donc, vous connaissez bien sûr le tigre, le lion, peut-être les lynx, les panthères des neiges, etc.
Le guépard, le jaguar.
Le guépard, ouais. Le jaguar sont des splendides animaux qui sont sur la planète. Ils sont apparus il y a à peu près 11 millions d'années. L'humain n'était pas debout à cette époque-là. Les grands félins sont apparus il y a 6 millions d'années, donc voilà. Et Lucie, oui, notre fameuse Lucie, 4,2 millions d'années. Homo sapiens, notre espèce, c'est 350 000 ans.
C'est rien.
C'est rien. Ouais. Donc en fait, ces grands prédateurs, et je parle pas des ours évidemment et des canidés, etc. Je parle juste des félins parce que c'est vraiment ma spécialité, mon domaine de recherche. Ce sont des animaux qui se sont répartis sur notre planète il y a des millions d'années. Et à partir du moment où l'homme a maîtrisé le feu, on a voulu maîtriser la nature. Et donc on a pris l'ascendant sur les prédateurs qui nous faisaient extrêmement peur. Donc voilà un petit peu, si on replace finalement sur l'histoire géologique, nous sommes pas grand-chose, mais au titre de la planète, au titre du climat, au titre... Voilà, nous ne sommes pas grand-chose, et nous sommes en train de tout dérégler. Concernant les prédateurs, c'est très
climat,
simple.
Le climat et le réchauffement climatique, c'est l'homme aussi
qui en est
responsable.
Bien sûr.
Vous dites c'est très simple concernant les...
C'est très simple. Nous exploitons notre planète. Alors, aujourd'hui, avec ce siècle moderne et tous ces réseaux sociaux et toute cette communication et ce bombardement d'informations, on se rend compte de choses qui se sont passées au cours du XXe siècle. Depuis l'industrialisation, on a rasé des forêts. Mais les forêts en Malaisie, en Indonésie, les forêts qu'on a rasées en Afrique, etc. On le sait maintenant, mais ça a commencé il y a 30, il y a 40, il y a 50 ans, si vous voulez. Et c'est la mondialisation qui a accentué ce phénomène. Alors, c'est très très compliqué, parce qu'on a envie de vivre dans notre confort moderne, etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est que il y a une démographie humaine qui est exponentielle, comme les bactéries. C'est pas logarithmique, on va pas s'arrêter. Les humains, ils croient comme les bactéries, ils ne croient pas comme les éléphants, ils ne croient pas comme les chimpanzés qui sont les plus proches de nous. La démographie humaine, elle suit le schéma des bactéries. Donc c'est difficile à dire, mais quand on se remet un petit peu en perspective et qu'on prend du recul, en fait, on rase toutes les forêts. Et les forêts, c'est ça qui crée le dérèglement climatique. C'est ça qui,
en tout cas, c'est
qui
le
fait
lieu,
disparaître
c'est le lieu,
les espèces.
C'est le lieu de vie de la biodiversité.
Et c'est le lieu de
la... Et c'est ce qui régule notre oxygène, c'est le poumon de la planète.
Alors les forêts, les rivières, les mangroves, les déserts, tout ça sont en train d'être transformés, si vous voulez.
On pourrait parler des heures avec vous tellement vous
moi êtes de félin avec grand plaisir
et pas que
la première fois que je me fais traiter de bactérie je sais pas comment je dois prendre
et ça sera pas la dernière. Merci Grégory Breton d'être venu. Je rappelle le site internet pantera.org pour les passionnés comme vous l'êtes, et on a senti la passion qui sommeillait en vous. Enfin,
sommeillait pas du tout.
Très réveillé. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Vous ne mangez pas de foie gras?
Non, et pas par choix, lié à une éthique personnelle, pardon, comme vous, Naguinant, par manque de moyens, hein, puisque pour le prix d'un bloc de foie gras, on peut acheter 120 sachets de curly, donc j'aime autant me nourrir convenablement. Et la ville de New York, ce cloaque bling-bling à l'origine des cheveux de Donald Trump, a interdit le foie gras pour 2022. Mais je vais vous parler de ça.
On en reparle après les infos de midi. Original avec les Lacadou Boudadi, Marina Rollman, Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Bonjour. Tanguy Pastureau.
Bonjour Nagui.
Notre invité Sylvain Tesson.
Bonjour.
La Panthère des Neiges sur cette quête spirituelle et en même temps la quête de la rencontre. Il y en a eu plusieurs sans divulgâcher ce qui se passe dans ce roman chez Gallimard, La Panthère des Neiges, qui a reçu donc, comme l'a rappelé Laetitia Gaillet dans ses infos, le prix Renaudot hier. Mais vous aviez déjà atteint les 150 000 exemplaires vendus, donc le succès était au rendez-vous. Le prix Renaudot ne va rajouter, ce qui est toujours bien aussi, que sa notoriété et sans doute ses 100 000 exemplaires supplémentaires. Mais au-delà du succès commercial, revenons à la quête spirituelle. On ne peut pas faire autrement que de se replier sur soi quand on est face à l'immensité de la nature et à la quête de cette rencontre avec la Panthère des Neiges.
On se replie sur soi, on s'aperçoit qu'il y a une beauté immédiate dans l'équilibre, dans l'ordonnancement, dans l'harmonie des milieux naturels, que malheureusement nous la négligeons un peu. Il faut peut-être revenir d'abord à la vénération de cette beauté, et c'est elle par la poésie. Ce sont des choses très simples, ce sont des choses très belles, mais ce sont des choses très oubliées, et peut-être que ça serait le premier pas vers la conservation de la nature, c'est d'abord sa vénération.
Est-ce que découvrir cette beauté, c'est ne pas faire de soi une forme d'orphelin à vie? Revenir ici, par exemple, dans toute cette agitation, ce prix, c'est aussi prendre beaucoup de distance avec toute la vision que vous partagez dans ce livre.
Oui, mais je me garde bien de me positionner comme l'espèce de sage qui descendrait de
l'ermite.
Sa grotte tibétaine.
Il y a quelques pensées.
Oui, mais enfin, je me rase pas le crâne comme un Dalai Lama qui reviendrait, qui aurait compris les mystères de l'univers en croisant le regard de la panthère et qui reviendrait dans...
Est-ce que ça vous manque, là, par exemple, maintenant? Parce que cette image que vous convoquez, ces apparitions, vous avez ça imprimé dans votre rétine à vie, et vous allez pouvoir convoquer cette image quand vous le voulez dans votre quotidien, dans certains moments. Est-ce que ça ne vous manque pas d'être justement aux premières loges comme ça?
Ça ne me manque pas parce que ce que j'ai compris pendant ce voyage, grâce à ce que m'a enseigné Vincent Munier, c'est que l'affût, c'est-à-dire la convocation de la patience, de l'espérance, de l'attente, de la discrétion, de l'émerveillement... On n'est pas obligé de prendre un avion, de faire 10 000 km, de monter dans des grottes au Tibet, d'aller voir des panthères, des loups, des ours, des lynx. On peut le vivre dans sa forêt. On peut le vivre au pied d'un tilleul, on peut le vivre devant son ciel, on peut le vivre sur les berges de sa rivière. C'est simplement un véhicule. Un véhicule, comme il y a le grand véhicule et le petit véhicule chez les bouddhistes, il y a un véhicule qui s'appelle l'attention au monde. Il faut ouvrir l'œil. On a un équipement sensoriel incroyable.
Ouais. C'est l'éveil des cinq sens,
oui. Oui, utilisons-le. On est fou, en fait, parce qu'on s'illusionne de chimères. On a une des écrans. On prie des dieux dont on n'est pas tout à fait sûr de l'existence. On attend des révolutions politiques qui n'arrivent jamais. Enfin, on espère. On se gargarise et on s'enivre et on s'hypnotise de chimères. Alors que nous avons cinq sens extraordinaires qui sont le résultat de millions d'années d'évolution et nous ne les utilisons pas. On est fou.
La Panthère des Neiges, c'est chez Gallimard et Tanguy Pastureau, c'est sur Inter. À compter de 2022, Tanguy, le foie gras New York, c'est fini.
Oui, et moi, ça me rend heureux parce que je suis un écolo bobo vegan, d'après les messages que je reçois à chaque fois que je défends les bêtes, les souris, les singes, les poux d'Alain Souchon. Le foie gras, certains disent qu'il s'agit d'un foie malade. Or, j'ai du mal à m'imaginer manger un organe défectueux, le cerveau de Karine Ferry. Est-ce que je le mange? Non. Le sexe de René, mon tonton qui a 75 ans. Est-ce que je le mange? Non. Ma famille est assez dysfonctionnelle comme ça, ça mettrait une mauvaise ambiance. Donc, les canards, je les aime vivants. Et je sais qu'en disant ça, je me mets à dos mon public du Sud-Ouest. Cette région où on lapide votre portrait, Nagui, à coups de côtelettes. Mais tant pis, je le dis, les animaux, je les aime en vie. Kiki, par exemple, mon teckel, que j'ai fait empailler pour qu'il ressemble à Arlette Chabot. Et bah, depuis qu'il est mort, il me rapporte plus la balle. Et j'ai pas envie de la mettre à la poubelle, je suis pour le zéro gaspille. La laisse, pareil, je l'ai gardée, le soir, je la mets et je sors faire pipi. J'ai sympathisé avec Jean-Claude, un voisin sympa, mais qui me demande de l'appeler maître. Il tire sur la laisse en criant, viens visiter ma cave. Enfin, une petite relation s'est nouée entre nous. Hein, d'autant que les traces des lanières de cuir dans le dos, ça part très vite avec un peu de pommade. Donc quand j'ai appris que la ville de New York, ce vivier à milliardaires botoxés, allait interdire le foie gras, j'étais content. Je me suis dit, le jour où j'ai assez de blé, je me paye à penthouse là-bas. Puis j'ai vu ma voyante, elle m'a conseillé de plutôt viser un petit F1, porte de la chapelle. Alors attention, seul le foie gras issu du gavage des animaux sera interdit. L'autre foie gras, celui où on invite le canard chez Flunch, avant de lui dire ici c'est formule buffet, tu manges ce que tu veux mon bébé, restera admis. Donc aux États-Unis, ce pays progressiste, hein, qui a osé il y a 3 ans élire le seul pot rouge à rien du pays, Donald Trump. Ben, c'est passé comme ça, mais en France, mais les gens râlent. L'autre soir, c'est à vous, émission qui consiste à gaver les invités pour qu'ils racontent moins de conneries, hein, parce que quand on mange, on ne parle pas, c'est pour ça qu'on entend peu Gérard Larcher. Hein. Et ben, ils ont fait un débat sur l'interdiction du foie gras, les deux invités étaient contre l'interdiction. C'est comme d'organiser une conférence intitulée « Pour ou contre le voile » avec juste Diam, c'est le président du CCIF. Et hier, Jean-Luc Petit-Renaud, le chroniqueur gastronomique dont le côlon a été tellement utilisé qu'il s'est syndiqué à FO pour dénoncer ses conditions de travail, était invité chez Morandini sur CNews. Et il a dit: le problème, c'est que le canard n'a pas la parole. Alors d'abord, c'est faux. Il est juste sous-représenté dans les médias. Il y a les Arabes, les Noirs et les canards, hein, qui eux sont vraiment communautarisés parce qu'ils vivent entre eux dans des étangs. Ils ne se mélangent pas. Vous avez déjà vu un canard au modem de François Bayrou, vous? Non. Et un être humain? Non plus, hein. Puis Petit Renaud ajoute, s'il parlait, le canard pourrait peut-être nous dire, j'en ai ras-le-bol de leur tube pour me nourrir.
Et là, on réalise qu'on ne sait pas que ce que le canard pense.
Mais non, parce qu'on n'a que le point de vue des humains. Mais qui nous dit que quand deux canards se croisent, il n'y en a pas un qui dit à l'autre, dis donc, hier, t'as loupé une grosse orgie. On a bouffé chacun 7 kilos de maïs avec un tube. Le géant vert en personne est venu nous saluer. Qui nous dit que le taureau de corrida dans son fort intérieur ne se dit pas, ok, ça fait mal, mais il y a pire comme job, je pourrais être Amélie Nothomb et attendre d'avoir un jour le prix Goncourt. Et qui nous dit que le cochon, au moment d'être abattu, ne hurle pas, oh oui, Justin Bridoux, éclate-moi la gueule. On ne sait pas, on ne comprend pas les animaux. Même les acariens qui vivent dans la barbe de Daniel Morin, si ça se trouve, quand ils se lavent chaque lundi matin, ils lui crient « Ne drasse pas, nous allons perdre notre habitat !» Jean-Luc Petit-Renaud, qui est moins con qu'il n'y paraît, a raison, on n'a pas le point de vue du canard. Il ne rote même pas, donc on ne peut pas savoir s'il est ballonné ou non. Et là, Jean-Marc Morandini, à ces mots de Petit-Renaud, se met à réfléchir, ce qui lui fait une tête inédite. Hein, il a les yeux dans le vague. On voit qu'à cet instant, la part en PDA de N'oubliez pas les paroles, il s'en tape comme le groupe 3 Cafés Gourmands du Sens du Ridicule, le jour où ils ont choisi leur nom de scène. Hein, ils étaient chez Hippopotamus, une fin de repas. Hein, ils ont failli s'appeler La Note, s'il vous plaît, c'était très bon, ce sera par carte. Là, Morandini pense à Access Prime Time, son chien, et se dit, si ça se trouve, il ne m'aime pas, il n'a pas la parole, alors j'en sais rien, est-ce que lécher, c'est aimer? Et donc, il rebondit sur la maltraitance animale. Et Petit Renaud de lui répondre, ouah, que dalle, un mannequin qui ne mange pas et qui, dans la rue, lorgne sur mon éclair au chocolat parce qu'elle se prive, ça me fait souffrir. Alors, l'éclair au chocolat étant un symbole phallique, attention, le mannequin ici a peut-être juste une grosse envie de sexe. Hein, mais on ne le sait pas, puisque le mannequin, comme le canard, ne parle pas. Il défile sur la musique lounge de Baltringue, tandis qu'Anna Wintour, au premier rang, fait la gueule. Donc, je le dis à Jean-Luc Petit-Renaud, il faudrait se balader dans la rue avec une religieuse et voir les réactions des gens. Personne n'a envie de coucher avec une religieuse, même si le pape François y a pensé une ou deux fois. Hein, puis, pour se calmer, il a lavé quelques pieds de pauvre et ça l'a refroidi, parce que ces gens ne font pas de pédicure par snobisme, sans doute, enfin, du côté bohème. Bref, on ne saura jamais ce que les canards pensent du gavage. Moi, je pense qu'ils aiment bien, mais
non,
on ne sait pas.
Tanguy Pastureau, merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et Tanguy, on te retrouve à Sanary-sur-Mer dans le Var, c'est le 30 novembre.
Au casino.
Et au casino, voilà.
Je vais tout claquer.
Des questions sur l'actualité culturelle. Sylvain Tesson, si vous avez une idée concernant ces réponses, n'hésitez surtout pas. Quelle est la particularité d'une œuvre de Keith Haring qui va bientôt être vendue aux enchères?
Elle est périssable?
Non.
Elle est faite avec son sang?
Non.
Elle est...
C'est la matière dont elle est faite?
Non.
Avec sa bave?
Elle représente non. des gens connus?
Elle est vide?
Non.
Ah, elle est sur un support intéressant?
Pas du tout.
C'était quelque chose de vivant avant?
Non.
Keith Haring, qu'est-ce qu'il a pu...
Bah, le support joue, mais c'est pas...
Il l'a pas terminé.
C'est pas
il
la matière.
Pas
non, non.
Ah bon. Il a pas commencé.
Non, c'est pas le sujet non plus. Non.
C'est sur un mur, c'est sur une bagnole, c'est sur un endroit attends. Qu'on peut pas bouger.
Exactement. Ah ouais. Exactement. C'est sur un mur, elle a dû être extraite d'une cage escalier new-yorkaise pour ouais. être vendue.
Il y a des trucs comme ça de Basquiat.
Bah oui.
Ouais, des murs hantés d'appartements.
Tout ce qui
ça sera vendu aux enchères le 13 novembre prochain. Les 13 panneaux réalisés en 83 et 84 sont estimés, enfin dans les années 83-84, sont estimés entre 2,5 et 4,5 millions d'euros. Ah oui. L'art moderne, on parle de contemplation de la nature, et l'art moderne vous touche ou pas du tout, Sylvain Tesson?
Moi, je vénère tellement la nature que je vénère aussi sa représentation. Donc, bien entendu, moi je vous réponds que le figuratif m'intéresse davantage. J'aime la conversation entre les formes naturelles et puis ce qu'on peut en représenter. Cela dit, je préfère un homard vivant que en plastique accroché dans la galerie des glaces de Versailles.
Bah ça y est, boum, Jeff Koons. On l'embrasse.
Si on nous écoute.
Avec son petit bouquet de
viande. On sait que l'animation pour le cinéma, ça prend du temps. On en revient à ce que disait Marina Rollman tout à l'heure aussi sur le temps. Mais quelle est la vitesse de fabrication du prochain film du maître Miyazaki?
5 ans?
Non.
10?
Alors, je vous demande une proportion entre le combien de temps il met pour tourner, par exemple.
Ah
une
non,
minute.
Mais c'est l'enfer, oui, oui.
Ah, ah c'est bah, une semaine, un an, une minute.
Un an plus.
Non, un an, une minute. Ouais, non,
ça dépend comment il fait.
Un mois.
Exactement.
Un mois.
Un mois.
Ouais, ah, exactement. Un mois pour tourner une minute du prochain. Alors là,
il est nul en droit d'auteur. Hein.
Quand je pense qu'on emmerde Laurent Voulzy parce qu'il sort un album tous les 8 ans.
on en revient à la contemplation, mais enfin peut-être pas à la contemplation, mais à la lenteur, à la manière dont le temps, j'imagine, le temps d'attente devait représenter des siècles en une journée, surtout quand on était à moins 25 ou moins 30 degrés. On doit trouver le temps long. Est-ce que le temps de la création est également pour vous un sujet?
Oui, enfin là pour Miyazaki c'est vraiment de la minutie, mais le temps de la création, moi j'écris des aphorismes, c'est-à-dire j'essaye immédiatement de faire un instantané par les mots de ce que je vois, comme un photographe prend une photo. J'aime l'idée que tout à coup on offre des mots à un spectacle et à une image, et ensuite je mature longuement. Moi, j'écris très peu. J'ai une œuvre très maigre, très mince. J'écris 100 pages, je mets un an. Oui, bien sûr, moi, je crois je crois pas à l'écriture automatique. Et malheureusement, j'ai pas cette capacité de production rapide.
Est-ce que vous corrigez vos aphorismes? Est-ce que certains, une fois que vous les avez écrits, ne trouvent pas grâce à vos yeux? Vous les rayez, vous griffonnez? D'abord, vous écrivez papier-crayon ou sur un ordinateur?
Oui, non, les aphorismes et les notes, ouais. Je les prends
sur un calepin.
Pas à l'encre, parce qu'au Tibet, ça gèle. Mais j'aimerais bien avoir le surgissement. Jules Renard, encore une fois, il voit deux vaches sur un gazon, et au lieu de dire « je vois deux vaches sur un gazon », il dit « deux œufs mollets sur un lit de cresson ». C'est génial, c'est une peinture. J'aimerais bien, moi, mais malheureusement, c'est comme une bulle qui remonte à la surface. Ça m'arrive pas encore.
Pour en revenir à Miyazaki et à sa vitesse de travail, ou en tout cas à sa recherche de la perfection et de l'excellence, vous évoquez l'obstination, vous trouvez même génial l'obstination.
Oui, l'opiniâtreté, l'obstination et l'idée fixe. L'idée fixe, c'était ce que Berlioz avait conseillé à Wagner, quand Wagner était allé le voir en lui demandant, avant que Wagner devienne Wagner, il était allé chercher un conseil. Et Berlioz lui avait dit, l'idée fixe. Il faut avoir l'idée fixe. C'était à ce moment-là que l'œuvre et que la production artistique se développent et se déploient. Le motif, un motif unique. C'est un peu ce qu'on a quand on part à l'affût, qu'on essaie de trouver la panthère. On a une idée fixe, On a une opiniâtreté, il faut attendre. Parfois, ça dure 48 heures. Il faut une vie intérieure aussi. Moi, je vous avoue que quand Munier, le photographe, me disait « on va rester deux jours devant un tas de cailloux, un pierrier, dans un horizon lugubre, et que de temps en temps, toutes les 8 heures, il y avait un lapin laineux qui passait »,
chouette,
je me disais, ouais, qu'il fallait vraiment une vie intérieure. Mais après, cette patience et cette attente est tellement récompensée par l'apparition, par le surgissement d'une bête, que tout s'accélère, et vous avez l'impression que ces heures que vous avez passées à attendre, le couronnement de cette patience, de cette difficulté d'attendre est tel que tout se révèle. Et à ce moment-là, ça prend, l'attente devient légitime.
Et l'entêtement ou être têtu n'est pas toujours une qualité non plus. Quelle est la nuance entre l'obstination et l'entêtement ?
Non, je crois que l'entêtement, il y a une nuance. L'opiniâtreté est la nuance de l'entêtement. Mais il y a une, c'est l'antidote à la diffraction. C'est-à-dire qu'on est tout de même un peu sommé quand on est, comme moi, un urbain du 21e siècle. On est sommé à la diffraction, à la variété des choses, au papillonnement, quoi, au butinage. C'est presque une soumission, quoi, à l'injonction de la société de toujours varier les visions et les pensées. Et tout à coup, grâce à l'opiniâtreté dans l'affût, vous prenez l'exact pli inverse. Vous attendez, vous espérez une seule chose, et c'est à ce moment-là que tout arrive.
La Panthère des Neiges, c'est chez Gallimard. Il butine et pack des glaçons, c'est Daniel Bon.
Bravo. Oh mon Dieu.
Je suis là.
Oh latrine divine. Oh bordel éternel, mais quelle révélation votre livre, Sylvain Tesson. Ça ne tiendra qu'à moi, vous auriez un prix pour un tel ouvrage. Oh, j'y étais, là-bas, avec vous, sur les traces pourtant invisibles de la Panthère des Neiges. Du coup, j'ai suivi vos conseils. Moi aussi, je suis parti à la recherche d'un animal sauvage dont l'espèce est menacée. Menacée dont la fulgurante beauté m'avait été mille fois rapportée et que maintenant je crevais de découvrir en vrai. Je suis parti à l'aventure, à la recherche du Patrick Sébastien. Le Patrick Sébastien, espèce qui fut un temps régnait sur le monde de la télé, laissant éclater sous les projecteurs sa crinière solaire, dont les rayons, mélange subtil de douceur et d'après-shampoing en jojoba, rendaient heureux une population française aussi morose de quotidienneté qu'avide de sensations potaches, moralement cicatrisantes. Un roi que la folie des hommes avait chassé de notre monde et qui était parti en exil. Mais où ? On ne savait pas. Équipé d'une longue vue pour le repérer et pour l'authentifier d'un éthylotest, j'entamais ma croisade. Après avoir étudié le parcours de la bête, j'étais persuadé que mon périple devait commencer là où il avait connu le réconfort et l'apaisement à l'époque où il était encore seigneur. Un endroit mystérieux mais convivial appelé Boîte à Partouze, lieu que les Romains fréquentaient assidûment et que Pline l'Ancien, dans ses livres, appelait Atrium Truduculum. Au détour d'un bois parisien où la vie nocturne était féconde, je tombais sur le lieu tant recherché. Dans ma tenue de camouflage étudiée pour la circonstance, c'est-à-dire à poil, je rentrais dans l'établissement. Une volupté invisible mais enveloppante à la fois me saisit d'emblée. Des formes se mélangeaient. Au leur, on entendait aussi des petits cris, parfois étouffés, parfois totalement libérés, déchirer l'espace feutré de cette caverne plaisir. Plusieurs espèces libres et sauvages hantaient les lieux avec plus ou moins de grâce. J'ai croisé un Michel Druckerus, espèce antique mais résistante, proche du marsupial qui passait de femelle en femelle avec difficulté certes, mais surtout grand appétit. Moment de joie, au milieu de cette arène déroutante, j'ai cru reconnaître un nagui. Nagui, vous savez, petit animal proche du suricate, très attractif et très actif, surtout sexuellement.
Attractif.
Mais oui, c'est vrai, tu diras pas le contraire. Mais comme il était de dos, je n'étais pas sûr. Puis quand il se retourna, déception, non, ce n'était pas lui. Le spécimen qui maintenant me faisait face était beaucoup trop fourni pour qu'il pût être un nagui. Malheureusement, je devais me rendre à une évidence irritante. Le Patrick Sébastien n'était pas là. Déçu mais toujours motivé, j'ai décidé de me rendre dans le sud-ouest de la France, là où la bête avait aussi ses habitudes. Après avoir pris le train sur 500 km, la charrette sur 800 mètres, puis fini à pied sur un chemin de terre boueux, j'arrivais à destination au milieu des champs et des labours. L'air était pur, les gens souriaient des quelques dents qui leur restaient. Je demandais à visiblement ce qu'on appelle un autochtone s'il avait entendu parler du Patrick Sébastien. Il me répondit avec grâce
« Vas-y, je te parle de l'autre, je suis là-bas. » Le plus de nom qui est aujourd'hui, tu as juste à creuser mon pot, mais vas-y, nous sommes pas dans la forêt.
et encore fragile. Allez, bonne chance, mon gars.
Je ne parlais pas cette langue étrange et morte que les anciens appellent le Jean Lassalus. Mais comme il avait pointé du doigt une grande et vieille bâtisse, je m'y rendis sans plus attendre. Plus je m'approchais, plus j'étais émerveillé. Sur les coteaux, j'apercevais tantôt un Philippe Risoli, espèce hermaphrodite devenue stérile à cause des pesticides qu'on croyait définitivement effacés, tantôt un Tex, petit animal, apparenté à la famille des bactéries non évoluées dont on avait perdu la trace. Et là, sans crier gare, mon tympan droit fut happé. Une musique significative parvenait à moi. Ça venait de la vieille bâtisse indiquée par l'homme. L'homme qui parlait en Jean Lassalus. J'ouvris la porte. Devant moi, un bar aussi immense que vide. Je ne voyais personne, mais je sentais comme une présence. Je scrutais l'espace avec attention, car je savais que les grands fauves savent particulièrement se mêler à l'environnement pour mieux se dissimuler. Et d'un coup, là, devant moi, il était là. On le distinguait à peine. Son corps avait pris l'apparence et les couleurs d'une bouteille de Ricard, et ses yeux brûlants comme un pastis sans eau me fixaient. Quel beau. J'étais pétrifié. C'était la plus belle chose que j'avais vue de ma vie. Comme un con, je décidais de prendre une photo de l'objet de ma quête. Le temps de fouiller dans ma poche, c'était trop tard. Il avait pris sous son bras trois bouteilles, puis en un éclair, s'était enfui par la fenêtre sans que je puisse faire quoi que ce soit. Je sortis de la vieille bâtisse et je le vis courir, un peu en zigzag, sur la colline. Va ! Va, grand fauve, a compris des hommes. Cours, ne t'arrête pas, maintenant tu es libre. Enivre-toi d'espace et d'alcool, nous ne te méritons pas. Adieu ! Après s'être cassé la gueule dans un talus, puis vomi dans un fourré, il disparut définitivement. Je sais que je ne le reverrai probablement jamais, mais mes yeux n'en croient pas leur chance. Par aujourd'hui, il est définitivement présent dans mon cœur, et chaque fois que je me saoule, je pense à lui. À demain.
Merci Daniel.
La bande originale.
On veut pas Daniel, je préfère quand même la plume de Sylvain Tesson et la Panthère
des
Neiges.
C'est un choix.
Chez Gallimard, qu'as-tu retenu, Leïla, de ce livre et de cette rencontre avec Sylvain Tesson?
C'est une rencontre, justement, je trouve, pour moi, avec l'homme.
Marina Rollman.
Oui, j'étais pas sûre d'aimer assez les animaux pour lire le livre, mais finalement, je crois que ça dépasse tout ça.
Tanguy Fassiro.
Sylvain Tesson m'a convaincu de regarder la nature. J'ai chez moi un petit ficus. Je vais passer l'après-midi en sa compagnie.
Tom Villa.
Ça donne très envie de voyager avec Sylvain Tesson. Je suis très curieux de voir comment ça se passe.
Daniel Morin.
Moi, grâce à la lecture de La Panthère des Neiges, j'ai compris. Et la prochaine fois que je verrai ma mère sortir de la chambre, je ne mettrai pas à hurler, mais je contemplerai la rareté de l'espèce.
Oh, joli. J'espère qu'elle le prendra bien.
Oui, c'est ça.
Sourde.
Mais et personnellement, rester à l'affût et être obstiné, ce sont aussi deux valeurs qui sont portées par toute cette quête spirituelle dans votre livre. Qu'aimeriez-vous que l'on dise après avoir lu La Panthère des Neiges, Sylvain Tesson ?
Si ça peut convaincre qu'il faut ouvrir l'œil et peut-être se contenter de, non pas de ce qu'on possède, mais se contenter de cette chose extraordinaire qui est le monde, la nature déployée devant nous, et de la réalité qui est fragile, qui est blessée, qui est menacée, qui demande de la vénération, qui demande un maintien et qui ne demande surtout pas à être augmentée.
Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges, chez Gallimard, prix Renaudot depuis hier soir, mais nous l'avions invité bien avant, nous, on n'a pas attendu. Merci mille fois Sylvain Tesson, portez-vous bien. Demain, Fanny Ardant et Nicolas Bedos seront là pour La Belle Époque, très 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 beau film, signé Nicolas Bedos. Et tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Oui. Bonne émission et bonne journée, merci.